L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
La Maison du judaïsme rhénan, située rue des Juifs à Strasbourg, a organisé une conférence de presse pour alerter sur la situation de la synagogue de Roufak, une synagogue médiévale ashkénaze datant de 1290. Pour commencer, nous avons demandé à la présidente d'honneur de la Maison du judaïsme rhénan, Catherine Trottmann, de nous présenter l'association et sa genèse.
Alors, la genèse, c'est le souci que le bâtiment du 15 rue des Juifs, qui est un élément remarquable du patrimoine juif, puisse être préservé dans une vocation patrimoniale après sa restauration par la Caisse des dépôts et son don mécénal à la ville de Strasbourg. Il a été travaillé, restauré et en même temps, avec Jean-François Covard qui a pris la présidence de la MJR, nous sommes réunis à trois associations, les Routes du judaïsme rhénan, la CEJA, la Société d'études du judaïsme d'Alsace et de Lorraine, qui est la plus ancienne de nos associations et donc qui s'est consacrée à la préservation du patrimoine juif, que nous puissions travailler ensemble sur la préservation, la connaissance, la valorisation déjà de cette maison, de son mikvé, mais en même temps aussi en travaillant ensemble du patrimoine des synagogues. Et voilà pourquoi nous avons été saisis par Jean-Pierre Lambert, qui est dans plusieurs de nos associations, qui nous a alertés sur la vente de la synagogue de Roufak et qui nous a alertés sur le risque qu'un acheteur puisse en fait ne plus laisser l'accès à la partie intéressante pour comprendre le fonctionnement de cette synagogue et ne puisse pas non plus garantir sa préservation à l'avenir. Voilà pourquoi nous avons souhaité mettre cet accent sur l'urgence pour trouver une solution qui soit la meilleure possible, qui ne spolie évidemment pas la propriétaire, mais qui permette aussi les études nécessaires, la constitution d'un projet, la connaissance des scientifiques et du public.
Quel est votre levier d'action pour permettre cette préservation ?
Tout d'abord, nous travaillons, les trois associations du pôle du judaïsme rhénan basées au 15 rue des Juifs, nous travaillons avec l'association du patrimoine juif européen, l'AEJR, nous travaillons avec d'autres spécialistes comme Dominique Jarassé, qui a été celui qui a le plus œuvré dans la connaissance scientifique et la préservation du patrimoine juif et en particulier des synagogues. C'est la référence, je dirais, pour nous tous. Nous avons la chance d'avoir la région Grand Est qui s'est engagée et qui soutient la démarche de la DRAC de reprendre des études d'inventaire. Et nous avions aussi un moment avec l'ancien recteur, un travail qui a été fait par notre vice-présidente de la MJR, Carole Venner, sur la connaissance de ces synagogues. Donc nous travaillons avec plusieurs partenaires en lien étroit avec la DRAC qui, sur ce point, nous aide, qui a entendu l'alerte et qui, par le contact avec le maire, procède à l'heure actuelle à la fois à l'alerte des monuments historiques, mais en même temps aussi à cette médiation qui peut nous permettre d'avoir accès au lieu et d'avoir un certain temps pour pouvoir faire des études complémentaires indispensables. Il y a sur place une personne qui a fait des études, qui est allemande, Carla Heim, qui est en train d'étudier. Donc nous avons son travail de 200 pages, donc on ne peut pas dire qu'on parte de rien, mais elle n'a pas pu faire le travail archéologique qu'il conviendrait de faire pour être exhaustif et pour pouvoir, c'est notre objectif, avoir une maquette exacte, la plus exacte possible, et une reconstitution 3D qui permettrait aussi d'accompagner les visites par la visite virtuelle.
Il est question aujourd'hui de levier politique, mais également simplement de moyens, d'argent. Le nerf de la guerre, comme souvent ?
Oui, bien sûr, parce que ce bâtiment est en vente. Et bien sûr, nous avons le respect de la propriété privée et du droit d'héritage. Donc, il faut trouver, je dirais, la manière de faire pour que ce bâtiment puisse être acquis dans des conditions où l'acquéreur puisse reconnaître les obligations patrimoniales qui sont associées à ce lieu. C'est donc aussi une recherche de mécènes ou d'investisseurs qui peuvent se proposer disposer pour procéder à cette acquisition dans les conditions qui permettraient la garantie, si vous voulez, de participation à ce patrimoine important des synagogues d'Alsace.
J'ai une question plus personnelle pour vous, Catherine Trottmann, très engagée sur beaucoup de fronts aujourd'hui. C'est quoi votre motivation à ce titre de présidente d'honneur, avant-présidente, à la Maison du judaïsme ?
Alors d'abord, j'ai été très concernée par un patrimoine dont j'avais constaté qu'il était assez peu connu, sauf par quelques personnes qui s'y intéressaient. Et donc, j'ai travaillé avec différentes personnalités qui m'ont alerté pour des morceaux d'une entrée de synagogue qui se retrouvait partie dans un autre pays, qu'on a essayé de pister et de retrouver, les journées du patrimoine juif européen, patrimoine juif en France, puisque je m'en occupais étant au ministère de la Culture. Et de fil en aiguille, évidemment, comme maire, j'avais été sollicité à l'époque pour la préservation du 15 rue des Juifs. Et c'est la raison initiale de cette association, qui était de valoriser aussi ce lieu et de lui garantir sa vocation sur la durée. Et elle est devenue, en quelque sorte, grâce à l'installation de plusieurs associations patrimoniales dédiées aux monuments historiques, dédiées au droit local, dédiées aussi à la cathédrale, mais les amis du Vieux Strasbourg, nous sommes tous ensemble dans cette maison et nous coopérons ensemble en partageant l'état de nos recherches, de nos travaux et de nos activités. Il y aura donc un ouvrage qui va aussi être réalisé, qui est en cours de réalisation sur ce bâtiment, et les visites ont été réparties entre l'Association des routes présidée par Françoise Elkoubi, la Céjal présidée par Norbert Schwab et tous les volontaires qui se sont présentés, comme Carole Vénère, Jean-François Covard, qui vont aussi procéder à ces visites comme ils le font déjà sur le patrimoine sous forme de parcours dans Strasbourg.
Retour sur le cœur de cette rencontre, la synagogue de Roufac, avec Jean-Pierre Lambert, vice-président de la Maison du judaïsme rhénan. Et pourquoi de sauver cette synagogue est si important ?
Parce que c'est la seule synagogue médiévale française conservée. Alors c'est une synagogue qui est un témoin d'une vie très courte des Juifs à Roufac, on va dire 1290-1330. Et après, elle devient maison d'habitation. Donc tout ce qui est resté, c'est vraiment quelque part un fossile d'une époque connue. Tout son aménagement date de cette époque. Donc c'est extrêmement important de pouvoir la sauver, de pouvoir la voir et de la montrer au public qui voit comment ça fonctionnait à cette époque.
Aujourd'hui, à l'intérieur, elle est telle qu'elle était en 1290 ?
Dans la salle de prière, oui. Alors après, il y avait des annexes, si vous voulez, des petits bâtiments annexes appuyés sur le principal, dont l'un servait aux femmes, reliés à cette synagogue des hommes par des fentes. Donc les dames pouvaient écouter, pouvaient entendre. Ça ne devait pas être très confortable. À l'arrière, probablement une salle d'études, toujours appuyée sur le bâtiment. Et de l'autre côté, une entrée un peu plus importante, puisqu'il y avait toujours une espèce de petit couloir, une espèce de petit hall à l'entrée d'une synagogue. Ces trois bâtiments annexes ont disparu, mais on a les traces dans le bâtiment de là où appuyait la charpente.
Combien de membres de la communauté juive, justement, représentaient cette communauté à Roufac ? Vous avez une idée ?
Alors, j'en ai aucune. On est surpris de la taille. Il ne devait pas être plus d'une dizaine ou une douzaine de familles. 100 mètres carrés, ça paraît invraisemblable. Et c'est tout le problème du Moyen-Âge, on n'a aucune idée des nombres à Strasbourg, etc. Y avait-il 100 familles à Strasbourg, il y en avait-il 200, il y en avait 500, j'en sais rien. Et c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Sur le Moyen-Âge, on n'est jamais capable de donner des nombres.
Elle s'inscrit aujourd'hui dans un circuit archéologique, dans une cité médiévale à Roufac, ça c'est important aussi.
Ah, c'est très important, Roufac c'est probablement la ville la mieux conservée d'Alsace du point de vue médiéval, et peut-être une en France, une des villes françaises. D'où une étude extrêmement importante en cours sur Roufac pour reconstituer un peu cette vie médiévale, cette ville médiévale, les quelques dizaines de bâtiments, peut-être plus, alors qu'à Vaubernais, qui est la deuxième plus importante, on doit en avoir une quinzaine. Là, il pourrait y en avoir 50, 60, on sait pas très bien, en fait, sous le crépi ce qui se cache.
Donc ça demanderait effectivement une mise en valeur de ce patrimoine.
D'abord, on fait l'étude, après on décide de ce qu'on fait.
Et vous, quelle est votre action ? De quelle façon vous intervenez avec les différentes institutions de Roufac ?
Moi, je n'ai pas de travail réellement sur Roufac. Simplement, j'ai connu la synagogue avec son ancien propriétaire, M. Guéraud. Je l'ai visité à plusieurs reprises. On avait un certain lien ensemble. Et donc, à partir de là, j'ai pu dire que ce qui se disait, qui était issu d'une étude de 1905, était faux. J'en ai parlé à la DRAC et ensuite monsieur Verlet, qui était donc le responsable de l'archéologie, a décidé qu'il allait voir. Et on a mis une stagiaire qui a trouvé à peu près ce qu'on avait dit. Et donc à partir de là, tout s'est enclenché. Mais là encore une fois, c'est juste un intérêt d'historien. À l'époque, j'étais président de la Société des histoires d'histoire d'Alsace et j'étais également coordinateur des archéologues du judaïsme français.
Jean-Pierre Lambert, qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? Ce sont les bâtiments, c'est le patrimoine matériel ou c'est l'histoire aujourd'hui des Juifs d'Alsace ?
Ben c'est tout. Avec le patrimoine, vous faites l'histoire. Avec l'histoire, vous essayez de comprendre le patrimoine. Vous ne pouvez pas faire du patrimoine sans faire d'histoire. Vous ne pouvez pas faire de l'histoire sans faire d'archéologie. Tout ça, c'est des débats vains. Il y a un métier, on se penche sur le passé. Il y a des outils qui sont les archives, le patrimoine, qui sont un ensemble de choses, qui sont aussi la mémoire des gens. Et à partir de là, on peut essayer de comprendre comment nos ancêtres ont vécu, par quels mécanismes ils ont évolué, comment ils ont évolué, quand ils ont évolué. Mais sinon, si vous ne faites pas un point commun, vous ne pouvez y arriver à rien. Alors, une historienne que vous connaissez certainement, un jour, devant un château médiéval, m'a dit « Ah oui, mais je lui ai demandé de le faire visiter. » Et elle me dit « Oh non, non, moi je suis historienne, pas archéologue. » Ça ne va pas, ça. Un historien doit connaître de l'archéologie et un archéologue doit connaître de l'histoire.
Et encore une dernière question en lien avec les archives d'Alsace liées à l'histoire des Juifs.
Les archives d'Alsace et de la ville de Strasbourg ont énormément de documents sur les Juifs. Or, vous êtes obligé aussi de passer par les archives pour avoir des documents, pour savoir des trucs précis. Qui rentre dans une ville à quelle époque ? On a gardé des registres d'impôts, donc on a les choses que payaient les Juifs quand ils rentraient dans une ville. Alors pas beaucoup, mais on en a, ça donne quand même énormément, un bon renseignement. Récemment, une Américaine, alors vous voyez, on n'a plus les archives en Alsace, on a des archives aux États-Unis, des bras Kaplan, a publié une liste de prêts avec pourquoi ils étaient prêtés et qui prêtait à qui. Et là, on s'aperçoit avec étonnement que dans cette liste, 80% des prêts, c'est pour acheter des chevaux. Donc ça veut dire que le juif vendait des chevaux et quelque part faisait un prêt. Et en fait, il faisait un prêt à crédit. Donc si vous voulez, la vente à crédit, c'était très difficile à faire. Donc on donnait le cheval et l'autre signait une reconnaissance de dette. Et c'est comme ça que ça se passait. Et donc on peut avancer avec ce genre de liste, ce genre de document, on peut avancer sur l'histoire pour comprendre les choses. Sans document, comment j'aurais pu le savoir que 80% de ces ventes concernaient des chevaux.
Et les archives aujourd'hui qui se trouvent aux États-Unis ?
On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ce qu'on sait, c'est que des bras Kaplan publient beaucoup, et d'autres, aux États-Unis, à partir d'archives qui ne sont pas forcément ici. On n'en voit pas beaucoup chez nous, aux archives. Qu'est-ce qui s'est passé donc entre les années 45, un gars qui s'appelait Zoïsa Tchaïkovski, qui était arrivé en France dans les années 35, 40, un peu avant même, qui avait déjà fait la chasse aux archives polonaises pour le compte du Yivo américain. Il fait de l'histoire, apprend le français, devient très vite un bon locuteur français, un bon locuteur yiddish, un bon locuteur anglais, donc un type excessivement intelligent. Il va voler systématiquement dans les archives qu'il consulte, avec je pense comment il faisait, des documents. Il part avec sa serviette pleine de soir. C'est un ami quand même de Philippe Dolinger, qui est un très grand historien alsacien. C'est un ami de Georges Weil, qui a fait un stage à Strasbourg et qui ne l'a pas vu faire. Un jour, il est découvert, il disparaît. Il sait qu'on le cherchera le lendemain matin avec la police. Il passe à Kiel et il prend l'avion ou le bateau suivant, puis c'est fini. Et tout ça, c'est vendu aux USA. Il faudrait essayer de les avoir au moins en copie en France.
Merci Jean-Pierre Lambert, vice-président de la Maison du judaïsme rhénan.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.